Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raison gardée, l'émission proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes sur RCN. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Je te réveille, excuse-moi.
Il
est tard pourtant, tu sais, il est 11h.
Oui, mais tu sais, je deviens très long dans tous les domaines, même dans l'éveil.
Bon, coupons tout de suite court à tes confidences. Ah oui, on va parler de deux sujets qui sont quand même assez...
L'éveil est important jusqu'à la fin.
Eh oui, la Fédération de la Libre Pensée est une association qui milite pour le respect des droits et puis aussi la conquête de nouveaux droits. Et le premier thème qui va nous intéresser aujourd'hui va concerner la fin de vie. Et le second thème du jour portera sur la guerre et plus précisément la propagande de guerre. Alors deux sujets graves, deux sujets sérieux, mais pour... amorcer le premier thème sur la fin de vie. Bah, commençons alors en chanson, avec une chanson bien connue de Jacques Brel, Le Moribond.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, t'es bien vivant, et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
Une belle chanson sur un sujet sérieux qui est la fin de vie. Mi-septembre, le président Macron a annoncé le lancement d'un débat sur la fin de vie pour faire évoluer la législation d'ici la fin 2023. Cette annonce fait suite à un avis du comité d'éthique qui ouvre la voie à une aide active à mourir. Alors, On rappelle très rapidement qu'il existe une loi Claeys-Leonetti qui date de 2016 et qui prévoit, le texte dit, la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes souffrant d'une affection grave, incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et subissant une souffrance réfractaire au traitement. Il s'agit donc de droit aux soins palliatifs, mais il ne s'agit pas d'une aide active à mourir. Ce n'est pas la même chose que les projets qui sont souhaités et portés par certaines associations dont nous parlerons tout à l'heure. Cette législation autorisant l'assistance au suicide et à l'euthanasie existe ailleurs. Alors Charles, on se disait Belgique.
La Belgique, le Luxembourg, la Hollande... La Suisse, bien sûr, depuis longtemps. Je voudrais revenir sur la loi Claeys-Leonetti, qui est une loi qui est déjà mal connue de l'ensemble de la population, y compris du personnel soignant. Cette loi est mauvaise dans le sens qu'on attend quasiment que le patient soit moribond pour arrêter donc tout soin et finalement on débranche et on le laisse mourir. Ça peut durer plusieurs jours. C'est une agonie finalement. Donc ce n'est pas une bonne loi pour avoir une mort douce comme nous le souhaitons. Ce n'est pas du tout... Par contre, on est aussi pour l'accès, bien sûr, pour les personnes qui ne veulent pas mourir de façon létale avec un produit létal, d'avoir un accès aux soins palliatifs. Ça, c'est un autre service que malheureusement en France est souffrant de soignants et d'endroits. Il y a beaucoup de départements qui n'ont pas de service soins palliatifs. C'est pas parce que moi je suis pour une famille douce et choisie quand je voudrais que des personnes qui ne le souhaitent pas puissent avoir accès à des soins palliatifs qui atténueront leur fin de vie, quoi.
C'est un des points de l'avis du comité consultatif. C'est déjà de renforcer les mesures de santé publique pour les soins palliatifs. Voilà. Mais on ne peut pas non plus s'arrêter là. Il faut vraiment une évolution législative.
Ça ne résout rien au problème de la libre disposition de son corps et de sa vie. Les religions, comme l'État, n'est pas propriétaire de notre corps. Donc nous devons pouvoir disposer de notre corps tout au long de notre vie, y compris jusqu'à la fin de sa vie. Et si on veut choisir de mourir de façon létale, de pouvoir avoir accès soit aux produits létals, soit à des services qui puissent le donner, comme on fait en Suisse, ou en Belgique, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, ça va problème. Il y a bien sûr, on peut pas le résumer comme ça parce qu'il y aura toujours des cas de conscience, des choses comme ça. Mais quand la personne a réitéré plusieurs fois, elle a écrit. Puis on parlait des directives anticipées que toute personne ou presque n'a fait ou ne connaît pas et qui ne sont pas appliquées. Il y a quand même à Nancy quelques cliniques qui, dans leur livret d'accueil. Parle des directives anticipées, mais c'est encore pas bien répondu. Le problème, il y a qui ne sont pas appliquées la plupart du temps. Soit les familles s'y opposent, et soit le corps médical, il dit de toute façon, il est répréhensible. De toute façon, s'il est reconnu que le corps médical a pratiqué une euthanasie, il peut être poursuivi, puisque la loi est mauvaise en ce sens, quoi.
L'avis du comité d'éthique parle d'une demande ou d'une expression de souhait de façon anticipée par une personne disposant d'une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée. Mmh. Et il est vrai que nul n'est à l'abri d'un accident grave de la vie. Et donc il faut effectivement y penser avant, de façon à ce que les souhaits soient vraiment très fortement exprimés par la personne auprès des siens, auprès de son médecin, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débat et qu'on sache exactement quoi faire. Mais il faut que le cadre légal permette à toutes les personnes en milieu hospitalier de pouvoir agir sereinement et dans la légalité. Le président a annoncé une convention citoyenne qui commence en octobre.
Il faut qu'il y ait un débat là-dessus, sociétal. Mais je dis que pour éviter encore une nouvelle polémique sur ces problèmes-là, c'est de faire un véritable référendum avec un texte qui aille dans le sens des personnes qui souhaitent se donner la mort quand elles veulent, même quand elles ne sont pas malades. On en est là, hein, c'est une loi de liberté totale. Bien sûr que ça va heurter beaucoup de sensibilités en France, mais on voit que les affaires de fin de vie, comme Godard, dernièrement, oui. Ça a été en première page, c'est des gens qui se donnent la mort, et qui des morts apaisées, ils s'endorment dans leur... c'est réversible, bien sûr, mais c'est fait réfléchir à la société. L'affaire Lambert a été quelque chose où la société, les gens, quand ils sont pas confrontés à ça, directement, dans leur famille ou dans leur corps par la maladie, et ils s'en préoccupent pas, ou vont être que de poser des tas de questions d'éthique et des choses. Mais moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des cas où les personnes souhaitent la mort, et ceux-là doivent être écoutés. Et aussi, la loi leur permet de le faire dans de bonnes conditions, sans que la famille ou les accompagnants, docteurs, enfin, le corps médical ou autres associations soient inquiétés par la loi. À ce niveau-là, c'est un problème de liberté. On doit disposer de son corps comme on veut. C'est le même. On peut lier ça aussi avec le corps des femmes. Hein. Le corps des femmes n'appartient à personne. C'est pas plus à son mari qu'à Dieu, qu'à l'État, quoi. Et c'est pareil pour la fin de vie.
On retrouve dans le camp de ceux qui s'opposent à cette évolution législative un peu les mêmes arguments et surtout même, je dirais, les mêmes mots. Par exemple, j'ai lu dans un article publié dans La Croix début septembre l'argument qui consiste à dire la législation va lever l'interdit de tuer. Donc vraiment, c'est cette idée de transformer le choix de la mort assistée comme étant un crime, en fait. Hein. Les mots visent aussi à orienter la réflexion et puis à choquer, à inquiéter. Dans le même article, l'auteur dit que si le cadre législatif permet l'assistance au suicide, c'est un mauvais message qu'on donne aux gens qui traversent des crises suicidaires. Enfin, comme si parce que la loi existe, les gens qui auraient effectivement dans leur vie des moments de dépression grave et songeraient à la mort, seraient comme précipités parce que le cadre existe. C'est quand même un argument tout à fait fallacieux.
Ce qui est totalement faux, parce que les pays qui vous pratiquent et où on peut pratiquer une fin de vie douce, il n'y a pas la queue devant les établissements pour se donner la mort. Toutes ces personnes qui veulent se donner la mort pour le moment, c'est pas des dépressifs, c'est surtout des malades qui ne supportent plus leur état et qui voient pas l'intérêt de continuer à vivre alors qu'ils ont perdu toute autonomie et surtout qui souffrent terriblement. Ces personnes qui prétendent que l'on va, que l'on tue, est-ce qu'ils se battent contre la guerre, pour la paix dans le monde? Est-ce qu'il est plus important d'avoir une fin de vie heureuse ou plus important de défendre la vie d'un garçon armé qu'on l'envoie au casse-pipe? Qu'est-ce que ces gens-là se battent pour le désarmement et contre la guerre? Si on aime la vie, on est contre la guerre, mais ces gens-là, j'ai jamais vu dans les mouvements de la paix ces personnes-là. Hein, pourtant, ils prêchent toujours l'amour du prochain et surtout, tu ne tueras point. Le tueur à point, c'est des personnes adultes, c'est pas un fœtus et c'est pas plus une personne qui souhaite mourir à la fin. C'est lui qui choisit. Nous, les personnes qui peuvent se donner la mort, ils se donnent en Suisse, c'est eux qui prennent
le produit
et qui le consomme. Et il s'endorme dans quelques minutes. Et la mort sans souffrance. C'est donc un geste vraiment personnel que l'on demande qu'il soit protégé par la loi, quoi.
Et voilà, de protéger par la loi, ce qui est assez frappant, notamment dans la présentation des arguments dans cet article, c'est l'idée de faire finalement, des personnes qui souhaitent profiter de cette loi, des personnes conscientes et vraiment actives dans leurs décisions, mais d'en faire des sortes de victimes d'une pression sociale. C'est un argument qui revient à plusieurs reprises. Alors le rédacteur de l'article dit par exemple « Qui peut ignorer, exemple étranger à l'appui, combien la pression externe, familiale ou sociale ?» induit les demandes d'en finir, mais sur quoi se fonde-t-on? Quelle pression sociale? C'est ce que tu disais à l'instant, on n'a pas vu des groupes entiers se précipiter pour bénéficier de cette loi. Ou une autre formule qui dit que c'est un prétendu droit de mourir qui bascule en devoir, comme si les personnes allaient se sentir obligées de partir. Même l'article commence sur des arguments d'ordre économique, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de pression de la société qui, pour alléger le coût des soins accordés aux personnes aux personnes âgées ou aux personnes malades les précipiterait dans la mort malgré leur volonté. Alors que tout le but, tout l'enjeu de cette loi serait justement de garantir un cadre qui ne soit pas justement la levée d'un interdit de tuer. Quoi. C'est vraiment une argumentation fallacieuse et qui en fait nie justement tout le travail législatif qui est à l'œuvre quand même depuis un certain temps. Il y a toute une réflexion législative, des projets de loi ont déjà été déposés.
Ces arguments, pour moi, ça ne tiennent pas la route. Il n'y a pas d'obligation. C'est une loi qui ne. C'est comme l'IVG. On n'oblige pas les femmes à avorter. Donc, les femmes choisissent d'être maman ou pas. C'est comme pour quand vous êtes en fin de vie, vous choisissez soit de souffrir, ça c'est son problème. Ceux qui veulent mourir en martyr, c'est leur problème. Mais ceux qui ne veulent pas mourir en martyr, ceux qui veulent avoir une fin de vie douce et apaisée, évitez aussi, quand on parle de suicide, des suicides violents, de se retrouver avec une personne déchiquetée par un train ou pendue dans son grenier ou gazée ou cette loi permettra à des personnes qui sont décidées d'en finir à la vie d'avoir à imposer à leur famille une mort violente. Imaginez, moi j'ai connu que dans mon entourage des problèmes de mort violente. C'est un traumatisme incroyable. Parce que ce que l'on demande aussi dans ces personnes en fin de vie qui veulent mourir, c'est qu'il y ait des personnes qui les accompagnent, qui soient sûres de leur, qu'ils sont d'accord pour faire ça, avec son entourage si possible, la famille, la mère, le père ou ses proches, on peut les accompagner, leur tenir la main et les accompagner jusqu'au dernier moment, et c'est sûrement un réconfort pour les gens qui assistent à ça, de les voir mourir en dormant. Il n'y a pas d'agonie.
Alors, on verra bien ce que donne. On souhaite tous que cette loi avance, effectivement, qu'elle évolue. Alors, on peut exprimer quand même quelques inquiétudes, ne serait-ce que parce que le président Macron a évoqué auprès de journalistes son avis sur le modèle belge, qu'il ne voit pas vraiment comme un modèle. Il a aussi dit qu'il n'était pas très à l'aise avec le modèle suisse de suicide assisté. Donc on peut se demander si finalement tout cela ne va pas aboutir simplement à une petite évolution concernant les soins palliatifs, ce qui serait déjà bien, mais qui n'est pas suffisant. Est-ce qu'on va vraiment réussir à parvenir à une loi sur le suicide assisté? On n'en est pas sûr. Qui va siéger dans cette convention citoyenne qui est mise en place en octobre? Sera-t-elle écoutée? Parce que finalement, si on pense à la consultation citoyenne sur les questions écologiques, le président Macron a dégainé des jokers, a écarté des solutions. Et puis, qu'en est-il resté finalement de toutes ces propositions de cette belle consultation citoyenne? Certainement beaucoup moins que tout ce qu'on pouvait espérer. Alors, on peut peut-être évoquer, pour finir sur ce thème, deux associations importantes sur ce sujet. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui se bat du point de vue légal et juridique depuis des années et qui essaye de faire avancer les choses auprès de nos élus. Et puis une autre association plus récente qui s'appelle Ultime Liberté. Est-ce que Charles, tu peux nous en rappeler les objectifs principaux?
Les principaux objectifs, on a déjà bien développé, mais c'est la liberté de disposer de sa personne, de son corps et de sa vie, et donc de se donner la mort. La liberté de choisir le moment, le lieu et les modalités de sa mort reconnues par une loi incluant le suicide assisté ou l'euthanasie volontaire lorsque l'intéressé se trouve dans un état où il ne peut plus communiquer et qu'il a écrit ses directives anticipées. Nous demandons aussi la facilité d'accès aux produits létaux dans des conditions de sécurité pour tout précisé dans le cadre d'une loi reconnaissant la liberté de la personne de se donner la mort.
Oui, c'est ça qui est important, cette idée du cadre légal qui permette que les choses se passent le plus dignement possible et de manière tout à fait sécurisée pour tous. Das sowas von sowas kommt.
keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler, de vous donner le titre en allemand de cette chanson que vous aurez tous reconnu de la chanteuse Nena. Une chanson pour introduire notre second thème du jour, la guerre. Et je pense à un titre d'un numéro de Philo Magazine qui doit dater du printemps 2022, la guerre alors qu'on n'y pensait plus. Et c'est vrai qu'en février, la guerre en Ukraine est venue rappeler à tous que la guerre est toujours possible. Alors en fait, c'est un peu étonnant parce que les guerres sont nombreuses. Bien avant la guerre en Ukraine, c'est pas tout d'un coup une guerre comme ça qui revient. Mais comme elle est proche de nous et qu'elle est en Europe, elle nous frappe. Et c'est d'ailleurs un des leitmotifs des médias et de nos politiques que d'avoir souligné le fait que cette guerre était très très proche de nous. Alors il y a plein de guerres dont on ne parle pas ou peu ou de façon plus ponctuelle, qui sont des guerres pourtant terribles. Alors je pense à celle au Yémen par exemple, et puis Israël et la Palestine notamment, là, dont on parle plus régulièrement.
La Syrie. L'Azerbaïdjan et l'Arménie qui viennent de repartir. Il y a toujours des tensions sur la frontière aussi en Yougoslavie, et c'est un peu plus proche de nous, mais bon, on sentait moins menacé. Il y a une trentaine de conflits dans le monde à l'heure actuelle.
Oui.
Et on s'étonne qu'il y ait la guerre en France, et en Europe et ailleurs. C'est le problème des frontières, c'est le problème des nationalismes, mais aussi, tant qu'on fabriquera des armes, tant qu'il y aura des armées, il y aura toujours des pousses au crime pour faire la guerre.
Ce dossier de Philosophie Magazine, justement, il était intéressant parce qu'il présentait trois âges de la guerre. Dans les articles proposés, il y avait cet article-là. Un premier âge qui renvoie à l'époque antique, aux guerres entre les cités. Et cette forme de guerre entretient en fait une tension avec ceux qui sont en dehors de la communauté et contribue à garantir l'unité de la communauté. C'est ce qu'ils appellent la stasis, c'est-à-dire la sédition intérieure ou ce qu'on peut appeler tout simplement la guerre civile. Donc elle permet de donner le sentiment d'appartenir à une cité, mais contre des communautés proches, donc organisées en autres cités, comme c'était le cas dans la Grèce antique en particulier. Donc ça, ce serait une des formes de guerre. Et qu'à l'âge classique, c'est la guerre entre les États-nations qui se développe. Donc bien sûr, là, on parle des États modernes, comme nous les connaissons aujourd'hui. C'est une guerre qui met en jeu le pouvoir, la domination d'un État sur l'autre, et qui ne se comprend qu'avec l'idée de souveraineté des États. Donc des États veulent assurer leur souveraineté, mais aussi mènent des politiques d'expansion territoriale. Et les guerres sont vraiment des guerres entre États qui veulent assurer leur puissance et développer leur pouvoir. Et c'est à partir de là que les États se sont arrogés un monopole de la guerre et de la violence, un monopole de la conduite de la guerre. Rousseau lui-même dit « il n'y a pas de guerre entre les hommes, il n'y a des guerres qu'entre les États ». Cette phrase ne se comprend que par rapport à cette conception de la guerre à l'époque moderne. Et ce que soulignait par exemple un philosophe comme Kant nous rappelle cet article, c'est que les États peuvent être amenés à reconnaître d'eux-mêmes la nécessité de limiter leurs ambitions pour ne pas aller évidemment jusqu'à une forme d'autodestruction par une guerre à outrance. Les États seraient donc dans cette seconde forme de guerre les seuls à pouvoir mener les combats et s'en arroge la légitimité, mais de manière respective bien sûr. Chaque État estime qu'il a le droit de se battre contre son voisin. Et puis le troisième âge de la guerre, c'est ce qu'ils appellent l'âge de l'autodestruction. Ce sont ces guerres récentes où pour essayer de contenir l'adversaire, le belligérant, ce sont des guerres qui sont fondées sur une idéologie souvent nationaliste ou impérialiste ou totalitaire. Eh bien, ces guerres dorénavant sont marquées par le risque d'extermination certain, puisque certains États disposent de l'arme nucléaire, donc la bombe atomique, l'arme nucléaire, et que par conséquent on peut aller jusqu'à une guerre vraiment à outrance. Et en fait, le jeu s'installe entre les États, entre la menace et puis la réalisation de cette menace qu'on dit proportionnée, qui risque d'être disproportionnée. Et donc, il y a tout un autre discours qui entre en jeu pour ce troisième âge de la guerre. Et j'avais repéré une citation dans cet article. La seule chance de sauver l'humanité d'elle-même à l'âge nucléaire, c'est que l'intelligence de l'État personnifié maîtrise les armes. Alors on peut quand même s'interroger sur l'intelligence des États personnifiés, et ça rejoint ce que tu disais Charles, c'est-à-dire que ce que le vrai sujet aujourd'hui n'est pas plutôt une course au désarmement plutôt qu'une course à l'armement.
L'armement est fait pour se défendre normalement, mais pas pour agresser. Toutes les guerres ont des objectifs économiques, c'est clair. Hein. On a oublié de parler des guerres coloniales. Hein. Où la France a brillé, hein, et l'Angleterre aussi, encore plus que la France, avec des massacres innommables. Il n'y a pas... aucune guerre n'est justifiée et n'est justifiable. Et le problème, c'est quand on exacerbe les nationalismes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de chefs d'État qui sont en perte de vitesse, ou leur économie sont en perte de vitesse, et trouvent ce moyen-là pour gagner une opinion pour eux, et c'est assez dangereux aussi ce système-là. Mais c'est tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays du monde à l'heure actuelle qui peut prétendre être un pacificateur. Hein. Il y a des interventions de la France partout dans le monde, les États-Unis, et bien sûr la Russie. Hein.
Tu parlais de l'opinion. Se tiendra du 24 au 29 octobre à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès, une exposition sur la propagande de guerre, par une exposition qui circule grâce à différentes associations. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il y aura une conférence le 25 octobre au soir, espace Jean Jaurès à 20h, par Anne Morelli, qui est l'auteur d'un ouvrage sur les principes élémentaires de la propagande de guerre. Elle se propose de démontrer, en remontant notamment déjà à la Première Guerre mondiale, comment l'opinion se travaille de façon à rendre acceptable une guerre. Voilà, elle rappelle les arguments qu'on retrouve. Nous ne voulons pas la guerre, c'est l'autre qui a commencé, l'État adverse est mené par un fou, nous nous battons pour de nobles causes, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire son ouvrage, donc Les principes élémentaires de la propagande de guerre, ou venir l'écouter, donc je répète, le 25 octobre à 20h, vernissage de l'exposition, suivi de la conférence d'Anne Morelli, une universitaire belge reconnue et réputée sur ce sujet. À bientôt dans Raison gardée.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety.